Bonjour à tous. Je voudrais aborder avec vous un prophète dont on ne parle pas très souvent, qui est le prophète Amos. C'est un livre un petit peu difficile, hein, qui comprend, qui a un ton relativement dur, avec beaucoup de jugements. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité aussi pour vous parler de ce sujet, mais j'ai été interpellé par cette parole, hein, et je crois qu'elle est très actuelle, et je voudrais la partager avec vous. Alors, on va lire plusieurs passages, hein, dans le livre d'Amos. On va faire une lecture un petit peu commentée. Donc le livre débute comme ceci, donc Amos 1, verset 1, « Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. » Donc, il utilise l'image du rugissement du lion. Et on sait que cette image est quelque chose de très fort. On peut citer un texte que j'ai retrouvé dans un ouvrage qui parlait du lion, qui dit que quand le lion rugit, tous les animaux de la création frissonnent. Le rugissement du lion est le cri le plus puissant qui jaillisse de la poitrine d'un animal. Il peut être entendu jusqu'à 8 km à la ronde. C'est un roulement sourd, entrecoupé. Il ressemble à un tonnerre lointain, dont le ton s'élève, s'enfle, roule et arrive à un éclat formidable. Voix menaçante et solennelle qui impose le respect, fait courir des frissons sous la peau des plus braves et sème la terreur dans l'espace. Et donc ce livre débute avec cette parole de Sion, l'Éternel rugit. La parole, c'est une parole forte, hein, qui va être annoncée au peuple. Et on poursuit donc un petit peu plus loin, dans Amos 3, il est dit « Le lion rugit dans la forêt, rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière ?» sans avoir fait une capture, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Donc la mission d'Amos va être d'annoncer un jugement imminent au milieu du peuple d'Israël. Pas une mission facile, et c'est un ton, effectivement, qui est assez dur, comme on va le voir. Alors peut-être d'abord le contexte historique. Donc Amos exerce son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, on pense autour des années 760. Donc il faut se rappeler que depuis la fin du règne de Salomon, le royaume est divisé en deux. Donc au nord, c'est les 10 tribus d'Israël qui forment le royaume d'Israël. Et c'est Jéroboam II qui est roi à ce moment-là. Il règne 41 ans, de 785 à 744. Et les deux tribus du sud, donc Juda et Benjamin, autour de Jérusalem, ont pour roi Ozias, qui lui règne 51 ans, de 785 à 735. Donc deux rois qui ont des règnes très longs sont sur le trône des deux royaumes à ce moment-là. Et c'est une période de prospérité et de stabilité politique pour Israël. Depuis le 9e siècle, l'Empire assyrien est la puissance dominante qui est en train de constituer un empire, hein, sur tout le Proche-Orient. Mais au moment où le prophète s'adresse à Israël, l'Empire assyrien est affaibli par un certain nombre de crises internes et son expansion est momentanément arrêtée. Et les Syriens en ont, profité, Israël en a profité, d'ailleurs, pour reconquérir des territoires qui avaient été pris par les Syriens, parce que les Syriens eux-mêmes avaient été battus par les Assyriens quelque temps auparavant. Et donc, c'est une période où l'armée du royaume d'Israël est forte et a reconquis le royaume qui atteint ses limites maximales à ce moment-là. Et on peut dire que la plupart des ennemis d'Israël ont été vaincus par ce roi Jéroboam, qui est un roi puissant en Israël. Donc, n'ayant pas beaucoup d'ennemis, on voit que le commerce et la prospérité se développent. Il est donné également un indice nous disant qu'Amos prêche 2 ans avant le tremblement de terre. Alors ce tremblement de terre a été retrouvé par le biais de fouilles archéologiques à Samarie, où on voit qu'à cette époque-là, il y a eu un tremblement de terre important, donc qui avait marqué les esprits. Ce tremblement de terre est repris par le prophète Zacharie, d'ailleurs, qui parle « Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias ». Voilà, donc on arrive à situer à peu près le contexte. Alors ça, c'est l'environnement. Amos, que sait-on de lui ? Alors le terme Amos veut dire fardeau, quelque chose de pesant. Et la prophétie d'Amos sera effectivement quelque chose qui n'était pas facile pour le peuple. Alors lui-même il nous est dit, dans Amos 7, il se présente lui-même, il dit « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » C'est donc un paysan, un simple paysan à l'origine, originaire de Tekoa, qui est un petit village au sud de Bethléem, dans le royaume de Juda, et que Dieu a appelé pour annoncer ce message. Il l'a appelé non pas dans le royaume de Juda, mais dans le royaume d'Israël, dans le royaume du Nord. Il a reçu cet appel et il a obéi. En tout cas, ce n'est pas un professionnel de la prophétie ni de la religion. C'est quelqu'un qui n'était pas spécialement appelé à cela au départ. En tout cas, il a obéi et il va donner son message pour Israël. Alors, je vous invite à réfléchir en quatre temps autour de ce livre d'Amos. Donc, un premier temps où on va essayer de voir quelle était la vision du peuple d'Israël sur lui-même à cette époque-là, dans le contexte qu'on a décrit. Deuxièmement, quelle était la vision de Dieu ? Troisièmement, le jugement que Dieu annonce. Et enfin, la restauration d'Israël que Dieu a en vue. Évidemment, le jugement n'était pas pour exterminer, mais pour permettre une restauration future, car Dieu n'avait pas abandonné son alliance avec Israël. Alors tout d'abord, comment le peuple d'Israël percevait les choses ? Comme on l'a dit, il y avait la prospérité, la sécurité. Le royaume atteint sa limite maximale. Il est victorieux, craint par ses ennemis. Il dispose d'une armée qui est puissante, sur laquelle on peut s'appuyer. La prospérité matérielle est décrite dans le livre d'Amos, où il nous est dit qu'on voit on constitue de nombreux jardins, la culture de la vigne, de l'olivier, du figuier se développe. On voit les notables qui construisent des maisons d'été, des maisons d'hiver, des palais d'ivoire, tout cela des signes de prospérité. Amos 6 nous dit « Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. » Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Donc on voit tout cela qu'il y a des signes de prospérité, de luxe même, qui se développent dans une partie du moins de la population. C'est pas sans rappeler, je dirais, notre prospérité aussi, notre confort hein, qu'on peut avoir à notre époque. Hein, cela, il y a une certaine actualité. Hein. Parallèlement, ce peuple a une grande assurance spirituelle. Il sait qu'il est le peuple d'Israël, qui a été choisi par Dieu, qu'il est le peuple élu. Et il vit cela, comme on le voit dans plusieurs passages, comme un privilège qu'il convient de défendre par rapport aux autres nations, comme une supériorité par rapport au peuple païen qui l'entoure. De plus, sa réussite présente semble prouver que la bénédiction de Dieu l'accompagne. Enfin, il a une espérance messianique. Il parle du jour de l'Éternel, qu'il attend comme la manifestation glorieuse du Messie, qui marquera le temps de la domination d'Israël sur toutes les nations. Il est relativement satisfait de sa situation. Et cela se manifeste d'ailleurs par une intense pratique religieuse. Il y a plusieurs sanctuaires qui sont décrits. Donc il y a Bethel en particulier, qui avait été établi lors de la séparation du royaume du Nord, où il y avait des sanctuaires à Dan et à Bethel qui avaient été établis pour remplacer Jérusalem. Et dans différents sanctuaires, on voit que les cérémonies cultuelles sont nombreuses, avec des sacrifices, des chants, des pèlerinages nombreux. Et dans Amos 4, il est dit, et il y a une certaine ironie dans le texte, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Ce n'était pas tous les trois jours qu'on devait donner la dîme. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Le levain ne devait pas être avec les sacrifices. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. C'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc un peuple qui est sûr de lui et qui a une pratique religieuse importante. Et il faut se rappeler qu'Amos s'adresse à Israël comme au peuple de Dieu et non aux nations païennes. Et par analogie, il va s'adresser aussi à nous aujourd'hui. Donc on pourrait dire que tout va bien, prospérité, sécurité et une vie religieuse intense et une sécurité, je dirais, qui se dégage dans l'attitude du peuple. Et on arrive à la deuxième partie. Quelle est la vision de Dieu sur ce peuple à ce moment-là? Et face à cette situation, le rugissement du lion, dont Amos fait le porte-parole, vient tout bouleverser. En effet, la vision de Dieu ne correspond pas du tout à ce que nous venons de décrire. Tout d'abord, on voit un peuple qui, derrière cette prospérité et ce bien-être apparent, cache l'injustice, l'immoralité qui se sont largement généralisées dans cette situation de confort. On va citer quelques paroles, il y en a pas mal dans le texte, mais peut-être les plus significatives. Amos, au chapitre 2, « Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. » Un peu plus loin, il est dit, Amos 3, « Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans les palais les produits de la violence et de la rapine. » Donc on voit ces problèmes d'injustice généralisée, de partage non équitable des richesses que Dieu a données, d'accaparation pour une classe aisée de tout cela. Amos 4, écoutez cette parole, génisse de Bazan qui est sur la montagne de Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord. vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Amos 5, car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. En réalité, le peuple de Dieu a abandonné sa spécificité pour s'assimiler, finalement, à ce qui se faisait tout autour, dans les nations cananéennes. Sans s'en rendre compte, il a abandonné le projet de Dieu. Et on voit que le thème principal qui est évoqué ici, qui est le partage des richesses, était un élément essentiel dans la loi de Moïse. Israël devait être une lumière, un exemple pour les nations, d'un peuple racheté, mis à part pour Dieu. Et le rôle d'Israël était d'amener les nations vers Dieu par l'exemple de ce peuple mis à part pour Dieu. Et ce projet a été complètement abandonné. Israël s'est assimilé aux nations qui étaient autour, avec les mêmes pratiques. La loi de Moïse prévoyait dans le domaine, justement, dans ce domaine social, beaucoup de dispositions. Dans tous les domaines économiques et sociaux, la terre appartenait à Dieu. Et sur ce principe, elle était partagée par tribu, par clan, par famille, selon les besoins, et non pas par une accumulation d'une classe dirigeante, de notables ou même du roi, qui, il est dit, ne devait pas plus tard avoir beaucoup de biens lui-même. Le droit des pauvres et des petits était reconnu. Il y avait un statut pour les esclaves, pour les étrangers, pour les orphelins, pour les veuves, pour les ouvriers agricoles. Il y avait un système de remise de dettes lors du jubilé, un système de prêts sans intérêt, des règles concernant la remise des gages, concernant la possibilité d'aller glaner dans les champs. La dîme, tous les 3 ans, devait être donnée pour les pauvres. Il y avait un système de rachat et de redistribution des terres pour que les familles qui avaient laissé leurs terres parce qu'ils avaient des dettes puissent retrouver leur héritage. Il y avait des principes de droiture dans les relations économiques, en respect des engagements. Il y avait des mesures contre la corruption sur des sujets très concrets, comme le déplacement des bornes, les faux poids et mesures, des mesures concernant le vol, la restitution. Il y avait un modèle qui était dans la loi de Moïse, qui distinguait très radicalement Israël des autres peuples. Et Amos insiste sur ce sujet-là, qui est un marqueur pour lui du respect de l'alliance, de l'obéissance envers Dieu. Et dans la situation présente, les nations qui sont autour ne peuvent que constater l'injustice qui sévit au sein du peuple de Dieu. Dans Amos 3, il est dit « Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod, c'est-à-dire chez les Philistins, et dans les palais du pays d'Égypte. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. » Donc voilà l'image que donnait le peuple à ce moment-là. Deuxième élément dans la vision de Dieu, c'est le système religieux qui, pour Dieu, ne signifie plus rien, n'a plus aucune signification. Et les termes sont très forts. Amos dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est dur, hein, pour Israël. Le culte d'Israël n'a plus de valeur pour Dieu. Cette religion n'est plus qu'une illusion, une tromperie un culte tourné vers ses propres satisfactions, mais plus tourné vers le vrai Dieu, tel qu'il doit être adoré. De plus, ce culte est mélangé avec l'idolâtrie. Comme on l'a vu, le sanctuaire de Bethel lui-même est une abomination, puisqu'il a été créé pour que le peuple, les tribus du Nord, n'aillent pas adorer à Jérusalem, pour des raisons politiques. Et on y a dressé un veau qui représente Dieu, mais on est dans quelque chose d'idolâtre. Et on sait que le peuple côtoie aussi et pratique d'autres religions environnantes, en particulier les religions cananéennes, le culte de Baal. Donc on pratique le culte de Baal, mais on pratique aussi le culte de l'Éternel dans les sanctuaires. Mais ces sanctuaires eux-mêmes sont... pose question, on a vu un petit peu plus loin qu'ils offraient des sacrifices avec du levain, etc. Donc ils avaient adapté un petit peu les choses. Hein. Et on pratiquait un culte pour se protéger de ce qui pouvait être des mauvaises choses qui pouvaient arriver, comme le faisaient les Cananéens avec les idoles qui étaient là. Et le peuple ne s'était pas rendu compte qu'il s'était fortement éloigné. Dans Amos 6, il est dit « Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. » Vous dites « N'est-ce pas par notre force que nous avons acquis la puissance ?» Et ils avaient une espérance, comme on l'a vu, dans le jour de l'Éternel, dans la venue du Messie. Et dans Amos 5, Dieu dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres. » et non lumière. Donc on voit qu'il y avait un très fort écart entre ce qu'ils croyaient finalement et puis ce qu'ils vivaient réellement. Ils avaient bâti leur vie sur une fausse sécurité. Et je crois que c'est évidemment un avertissement pour nous, pour moi en premier, mais pour chacun de nous. Aujourd'hui, le peuple avait peu à peu dévié dans ce chemin-là. Il fallait le rugissement du lion d'Amos pour venir le rappeler. Troisième partie, donc, les conséquences de cette situation, c'est le jugement de Dieu. C'est le rugissement du lion qui apparaît un peu comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu d'Israël à cette époque-là. Alors, de nombreux textes donc annoncent ce jugement. Dieu dit je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillés. Comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis à Samarie, à l'angle d'un lit ou sur des tapis de Dama. Il ne restera plus rien. L'ennemi va venir. Tout va être détruit. Tout ce que vous avez, toute votre sécurité. Il ne restera pratiquement rien. C'est des messages difficiles à entendre. Israël va être prochainement livré à ses ennemis qu'il méprise. Et on sait que dans l'histoire, ces événements se sont produits pour Israël peu de temps après. 40 ans après, donc Amos prêche autour de 760, et c'est en 722 que les Assyriens sont revenus, ont reconstitué leur puissance et ont pris Samarie, le royaume du Nord, déporté tous les habitants. 40 ans après, ces événements se sont produits. Alors, ce jugement, à l'époque, n'est pas accepté du tout dans le royaume d'Israël. On voit un petit peu plus loin qu'Amos 7, il est dit, Amatsia, qui était le prêtre de Bethel, donc le sanctuaire principal de Juda, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. » Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera mené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, ô ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Donc son message n'est pas accepté, et il semble donc qu'il a été expulsé du royaume d'Israël à ce moment-là. Donc, pas d'écoute de ce message qui était très, très difficile et très dur à entendre. Alors, il est intéressant de voir comment Dieu prépare ce jugement. Dieu avertit à l'avance. Hein, et ce jugement va se faire progressivement, et on voit cette progression à l'intérieur du livre d'Amos. Dieu ne prend pas par surprise hein, le peuple pour le détruire. Hein. Mais les choses ont été menées à plusieurs étapes. La première chose qu'on peut noter, et qui peut nous choquer aussi, c'est que Dieu est l'auteur du jugement. Et il dit que c'est lui qui a organisé les choses pour juger son peuple. Mais dans sa patience et son amour, il avertit le peuple à l'avance, par l'intermédiaire de ses prophètes. Alors, dans le livre d'Amos, il y a trois séries qui présentent l'annonce de ce jugement. On a une première série qui est une annonce, simplement, du jugement à venir, et qui comprend cette expression qui revient à chaque fois, à cause de trois crimes, et même de quatre, je vais exercer le jugement. On voit déjà qu'il y a une patience de Dieu. Dieu n'applique pas le jugement tout de suite. Trois crimes à cause de quatre. Il y a eu un temps de patience de Dieu qui a été laissé à chaque fois. Et cette première série était un peu concentrique vers Israël. Dieu commence à dire, regardez la cruauté des nations païennes qui vous entourent. À cause de leur cruauté, j'ai décider le jugement. Il parle des Syriens, des Philistins, de Tyr et de Sidon, qui étaient des ennemis de toujours d'Israël. Je pense que le peuple d'Israël devait être assez d'accord avec cette présentation des choses. Puis après, ça se rapproche. Le jugement concerne les cousins d'Israël, les Édomites, qui étaient les enfants d'Ésaü, les Ammonites, les Moabites, qui descendaient de Noé. Et puis le jugement arrive sur Israël et sur Juda, avec la même expression, avec la même approche. Et sur Israël et sur Juda, ce qui est reproché, c'est l'idolâtrie qui caractérise donc le mépris de la loi de Moïse. C'est la première série. Donc Israël est associé au jugement des nations. Il n'a plus son statut particulier par rapport à ce jugement. La deuxième série, c'est un certain nombre de jugements que Dieu a mis en œuvre avant que Amos prêche, qu'il a lui-même conduit. Et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal avec cette idée de Dieu qui lui-même met en place, mais c'est un Dieu souverain et qui a un plan pour son peuple. Et là, on a l'expression qui revient à chaque fois, malgré cela, « Vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. » On voit quelle est l'intention de Dieu. Dieu voulait que son peuple revienne dans le plan, dans le projet de salut qu'il avait établi. Dieu ne juge pas pour... Dieu juge pour un but qui est le salut. Et là, il est cité la famine, la sécheresse, la rouille, la nielle, les sauterelles qui détruisent les récoltes. Les épidémies, la guerre. Dieu dit, moi j'étais derrière ces choses. C'était pour que vous reveniez à moi, que j'ai prévu ces choses qui se sont déjà déroulées. Il dit dans Amos 4, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et donc, on arrive à une dernière série, sous forme de vision, qui manifeste que maintenant le jugement a été arrêté a été décidé, et c'est le message d'Amos. C'est pour ça que c'est un message qui est difficile, qui est dur, parce que son message arrive à cette étape. Et il y a quatre visions qui sont données dans le livre d'Amos. Les deux premières, donc, c'est les sauterelles qui détruisent tout ce qui reste, le feu qui brûle également. Et dans ces deux cas, le prophète Amos intercède pour le peuple. Il dit, mais comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Il y a ce contraste entre ce peuple qui se sent si fort et Amos qui a la révélation de la faiblesse de ce peuple. Et Dieu se repent de ce jugement final, dans les deux fois. Donc on voit là aussi la patience de Dieu. Dieu n'applique pas son jugement comme ça, c'est pas quelque chose que Dieu aime. Et enfin, il y a deux autres images qui suivent. Le peuple qui est passé au niveau et qui évoque le jugement final. Le temps de la grâce est passé et Dieu doit juger à ce moment-là. Et où il est dit que Dieu ne pardonnera pas maintenant à cette étape parce qu'on est arrivé au temps du jugement final. Et il y a la corbeille de fruits également qui est une autre image qui montre que Israël va passer par le jugement comme les autres nations, quelque part. Il se retrouve dans cette corbeille du jugement de Dieu qui concerne les nations et dans laquelle Israël se trouve aussi incluse. Donc le jugement est final et décidé. Et donc, on a des textes donc, qui nous disent cela. Et Dieu dit, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. Et le texte dit, s'il pénètre au séjour des morts, je les y poursuivrai. S'il monte aux cieux, je les en ferai descendre, etc. Je dirigerai contre mes regards pour faire du mal et non du bien. Donc ça nous choque de voir Dieu qui parle comme ça. Dieu dit, maintenant, j'appliquerai le jugement je me placerai comme votre ennemi pendant ce jugement. Donc on a un peu du mal à... On va y revenir à voir, mais est-ce qu'on parle du même Dieu de grâce? Mais comme on l'a vu, le jugement n'est pas venu comme ça, et il est conduit, il est dirigé par Dieu selon un plan qu'il a prévu. Heureusement, Amos ne s'arrête pas là. Il y a un projet de restauration pour Israël. Le jugement a été annoncé d'avance en plusieurs étapes pour provoquer la repentance du peuple. Il s'inscrit dans le plan rédempteur de Dieu qui veut purifier son peuple pour accomplir les promesses qu'il a faites à Israël. Dieu n'a pas abandonné ses promesses. Dieu ne se satisfait pas de la situation d'Israël telle qu'il est devenu. Dieu est fidèle à son alliance. Si le peuple n'y est pas fidèle, lui reste fidèle. Et finalement, au-delà des conditions de notre vie terrestre, avec des temps heureux ou des temps malheureux, dont Dieu a la maîtrise, et c'est ce qu'on peut voir dans cette histoire-là, au-delà de ça, le véritable objectif, on voit, qui subsiste pour nous, c'est celui-là, se préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc le Dieu agit pour qu'Israël se prépare à être peuple de Dieu, mis à part pour lui, le projet qui avait été celui de l'Alliance au mont Sinaï. Mais les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres, hein, et je pense qu'il y a un aspect de Dieu qui est pour nous important. Alors, dans sa prédication, Amos émaille tous ses jugements par des appels à la repentance, hein. Amos 5 qui dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, tous vos sanctuaires, tout votre système religieux qui vous occupe tant. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. craignait qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Donc on a cet appel à revenir sur soi-même et à rechercher sa présence, sa vie, sa volonté pour nos vies. Amos 5, un petit peu plus loin, dit « Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. » Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amos 5, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent. Qui jamais ne tarit. Voilà ce que Dieu recherche pour son peuple. Le peuple est appelé à renoncer au mal, à chercher le bien dans son comportement de tous les jours. Rechercher la droiture, la justice et l'obéissance, c'est là ce que Dieu attend pour son peuple. C'est là le culte qu'il attend de notre part. Et je crois que cet appel, ce message nous est adressé évidemment à tous. Que le Seigneur nous aide à marcher dans cette démarche qui est un engagement pour nous de tous les jours. Dans le Nouveau Testament, Jésus promet l'action du Saint-Esprit pour nous y conduire, car nous, on n'est pas capables par nous-mêmes. Et il est fidèle et bon pour nous accorder son pardon lorsque nous péchons contre lui, évidemment. Et la grâce était aussi présente dans l'Ancienne Alliance. Les sacrifices étaient là pour rappeler le pardon de Dieu. Et le livre se termine par, nous dit qu'il y aura évidemment un reste qui sera préservé dans ce jugement, que tout ne sera pas détruit. Et il nous annonce une restauration future. Il va y avoir une espèce de tri, il est question de « je secourrai la maison d'Israël » parmi toutes les nations, comme un secou avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». Il restera un peuple fidèle dans ce tri qui aura été fait, un peuple qui reviendra. Et après ce temps de jugement, Israël sera restauré. Dieu est fidèle à ses promesses. Dans Amos 9, tout à fait à la fin du livre, il est dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel des armées. Voilà le projet final de Dieu. Voilà quel était le but de toute cette pédagogie très dure qui était adressée à Israël. Voilà ce que Dieu attendait de nous. Et donc, on peut voir qu'il y a vraiment nécessité d'avoir cette juste vision de Dieu. Dieu nous fait grâce, mais Dieu est juste et exerce son jugement. Et il faut bien se rendre compte que la grâce de Dieu n'a aucune signification si on n'a pas aussi cette vision forte de la justice de Dieu qui nous rend responsables de ce que nous faisons, de notre vie telle qu'elle est, dans sa réalité. Elle implique droiture, obéissance de notre part. Le prophète Samuel disait « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Et on reste sur ce principe-là. On a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous rappellent tout à fait ce principe qu'on retrouve dans le livre d'Amos. Jésus lui-même dira plus tard, dans Matthieu 7, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et après, il y a cette image de celui qui a entendu ces paroles, a construit sa maison sur le roc, celui qui les a mis en pratique. Celui qui ne les a pas mis en pratique a construit sur le sable. Les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël à l'époque d'Amos. L'épître de Jacques reprend aussi ce sujet et nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?» Donc, il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Ce n'est pas la foi qui nous sauve, mais la foi doit être accompagnée par l'obéissance. Et il y a cet équilibre, justement, de la grâce et de l'obéissance. La grâce de Dieu nous permet de marcher dans ce chemin. C'est Dieu qui accomplit cette œuvre. Mais nous devons veiller à rester dans cette perspective que Dieu nous donne. Le prophète Ésaïe reprend ce message aussi en grande partie. Et il nous dit, il parle du jeûne. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, c'est un petit peu plus loin, peut-être. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. On reste là dans la thématique qu'évoquait Amos, du partage, justement. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu du toit le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, etc. Hein ? Voilà le culte que Dieu attend, le culte que Dieu veut. Alors en conclusion, je dirais que Dieu nous aide à ne pas vivre sur de fausses sécurités, comme ce peuple d'Israël, qu'il nous aide à vivre dans la droiture, la justice, l'obéissance à sa volonté, tous les jours de notre vie, dans les différentes situations dans lesquelles il nous place. C'est un engagement de tous les jours, c'est un engagement quotidien avec lui. Que nous recherchions sa gloire dans un esprit d'adoration et que nous soyons dans cette attitude pour nous préparer à rencontrer notre Dieu. C'est lui qui le fait et nous lui faisons confiance. Amen.